Les jeunes reporters européens vous parlent.
Bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission des jeunes européens et aujourd'hui je suis avec Tessa, Mariana, Carla, Victoire et Hélène et on n'oublie pas Laura qui est en régie qui ne va rien dire mais nous on sait qu'elle est là. Et du coup aujourd'hui on va parler d'éducation. Et à Tessa, c'est à toi.
Tout à fait Zoé, merci. Donc nous allons parler d'éducation et de formation dans l'Union européenne. Donc tout d'abord, quelle est la politique européenne en matière d'éducation ? Il a fallu attendre 1992 et le traité de Maastricht pour que l'éducation soit formellement reconnue comme un domaine relevant de la compétence européenne. L'UE encourage ainsi la coopération et la coordination entre les pays. Elle peut compléter l'action si nécessaire. De cette manière, elle soutient, développe et met en œuvre des politiques d'éducation et de formation tout au long de la vie. L'objectif est de permettre aux États membres de collaborer et de tirer des enseignements les uns des autres, tout en respectant leur diversité culturelle et linguistique. Et en laissant le contenu des enseignements et de l'organisation du système éducatif sous l'entière responsabilité des États. Nous y reviendrons plus tard. En 2019, il y avait 4 objectifs communs au niveau de l'UE qui ont été établis pour relever les défis des systèmes d'éducation et de formation pour 2020. Donc depuis l'adoption de Europe 2020, la stratégie globale de l'Union, c'est de mettre l'accent sur la croissance et l'emploi. Les pays européens sont donc engagés dans un cadre commun de coopération dans le champ de l'éducation et de la formation. Les principaux objectifs concernent notamment la réduction du taux de décrochage scolaire à moins de 10%. En parallèle, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a proclamé la même année que toute personne a droit à l'éducation ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. Et un des programmes phares de mobilité de l'UE, c'est, je ne vous l'apprends pas,
Erasmus.
Et même Erasmus+.
Petite, hop, incruste.
Qui soutient les efforts donc, des États membres dans le domaine de l'éducation à travers de nombreux dispositifs. Et le socle européen des droits sociaux, donc en 2017, prévoyait également que toute personne a droit à une éducation inclusive et de qualité, à la formation et à l'apprentissage tout au long de la vie, afin de maintenir et d'acquérir des compétences qui lui permettent de participer pleinement à la vie en société et de gérer avec succès les transitions sur le marché du travail.
Et pour autant, il existe des disparités entre les États membres.
Tout à fait. Donc il y a des grandes différences d'un État membre à l'autre, notamment sur le coût des études supérieures, la durée de scolarisation obligatoire, l'âge d'entrée à l'école, etc. Du coup, les systèmes éducatifs de chaque pays sont différents et certains témoignent d'un tronc commun tout du long de la scolarité, un peu comme nous, et d'autres sont plutôt disparates. Donc les premiers à avoir adopté ce tronc commun, ce sont les pays scandinaves, sans surprise, dans les années 60. Et à l'inverse, l'Allemagne et la Lituanie orientent très tôt leurs élèves par le biais de systèmes d'apprentissage très développés. La moitié de l'UE, donc à 28 actuellement, fixe la fin de la scolarité à 16 ans minimum et la durée de la scolarité des élèves varie donc entre 9 et 13 ans. On observe une facture nette entre les pays du Nord et de l'Est, avec ceux du Sud de l'Europe sur le taux de sortie précoce du système scolaire, autrement dit des décrochages. Bien heureusement, c'est en baisse quand même les chiffres, depuis les années 2000. Les États membres du Nord et de l'Est comptabilisent environ 8% de sortie précoce, donc de décrochage, alors que ceux du Sud et la Roumanie sont eux à des taux bien plus supérieurs, à entre 15 et 22%.
Il y a des disparités énormes quand même.
Ouais, on parle de 2 fois plus en fait. Le coût de l'enseignement aussi varie beaucoup d'un pays européen à l'autre, notamment les frais d'inscription et administratifs, qui sont inférieurs à 1 000 euros pour la majorité des États. Mais sans surprise, le pays où ça coûte le plus cher d'étudier, c'est le Royaume-Uni.
C'est pas grave, ils sont là, on s'en fout.
Voilà, sauf l'Écosse. Même un petit big up sur l'Écosse. Les pays les plus généreux sont aussi, sans surprise, les pays scandinaves. Au Danemark, par exemple, les bourses peuvent s'élever jusqu'à 9 000 euros par an. A contrario, les derniers pays entrés dans l'UE ont des bourses les plus faibles avec un montant inférieur à 1 000 euros. La formation et le niveau d'études ou encore le salaire des enseignants ne sont pas harmonisés au sein de l'UE. Et par exemple, l'Allemagne et les Pays-Bas sont ceux qui payent le mieux leurs enseignants.
Pas mal, ok. Et du coup, Tessa, comment l'Europe se positionne par rapport à l'échelle mondiale, pardon.
J'avais pas très bien écrit ma question, c'est pas grave.
Alors,
L'Europe dans le classement mondial. Donc chaque année, il y a l'université chinoise, excusez-moi pour mon accent, Jiao Tong, publie le classement mondial de Shanghai des 500 meilleures universités dans le monde. Donc en 2018, les universités américaines continuent d'occuper le top 20 des meilleures universités avec une quinzaine d'universités présentes. Côté européen, seules les universités britanniques, donc les plus chères, arrivent à s'immiscer parmi les 18 premières du classement. Donc l'université de Cambridge, qui occupe la 3e place, suivie d'Oxford, la 7e place, et l'University College de Londres, en 17e. Il y a quand même 26 universités françaises qui sont présentes, avec l'université de la Sorbonne, 36e du classement, suivie de l'université de Paris-Sud, 42e, et l'ENS Paris, qui est 64e. Donc ce classement est établi selon des critères tels que le nombre de professeurs, d'anciens élèves ayant reçu un prix Nobel, etc. Et ces critères sont plus ou moins discutables. C'est pour ça que la Commission européenne a créé en 2014 son propre classement, qui est financé donc par l'UE à hauteur de 2 millions d'euros et qui s'appelle le U Multitrank. Je ne sais pas pourquoi ce nom, par contre.
Étrange.
Voilà, qui est basé sur des critères différents de ceux de Shanghai, donc. Et dans l'édition 2018, une soixantaine d'universités et de grandes écoles françaises figuraient parmi les 1500 établissements recensés. Et donc, selon le classement, le niveau des universités françaises serait comparable à celui des universités britanniques.
Mais du coup, dans le classement européen, il n'y a que des universités européennes ou... Parce que 1500 universités, ça me paraît beaucoup.
Non, je pense que c'est avec de nouveaux critères par rapport à celui de Shanghai,
mais c'est le même mondial. Ok, ah, ouais. D'accord. Mais en même temps, je trouve ça très compliqué de trouver des critères objectifs quand même pour...
Mais de ce que j'ai lu, il y a peut-être plus de critères sociaux en termes de bourse, en termes de qualité de vie.
Oui, parce que
aussi.
Forcément, du coup, on gagne des points par rapport à l'Angleterre. Là, tout de suite, ouais. Forcément, ça fait du bien.
C'est sûr.
Du coup, tout de suite, on va faire une pause musicale et on va écouter du Pink Floyd. Pink Floyd, j'ai essayé de retrouver le titre officiel de la musique, c'est Another Brick in the Wall, ou juste The Wall, je sais plus. Bon voilà, on connaît, de toute façon on n'a pas besoin de du titre. On se moque de moi en régie, je vous vois, hein, c'est bon. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Hélène qui va faire sa revue de presse.
Bonjour, je vais vous présenter l'actualité à propos de notre sujet principal pour cette émission, l'éducation. Nous nous souvenons tous quand en novembre, le gouvernement a annoncé le lancement du plan Bienvenue en France qui visait à attirer plus d'étudiants étrangers. Le plan a été majoritairement critiqué à cause de la hausse de frais d'inscription pour les étudiants qui ne viennent pas de l'Union européenne. En observant les chiffres, on verra que désormais, en licence, il faudra débourser 2770 euros au lieu de 170. Alors on parle de coûts de 10 à 15 fois supérieurs. Le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré que le nouveau système améliorerait les services aux étudiants internationaux. Mais cette décision a suscité des critiques de la part de l'opinion publique et de partis de l'opposition. À Ouest France, un quotidien régional français nous informe que l'université de Clermont-Auvergne, située à Clermont-Ferrand, est la première à refuser d'appliquer la hausse de frais d'inscription des étudiants hors l'Union européenne. Cette décision était prise par la direction de l'établissement qui souhaite néanmoins ouvrir le dialogue pour trouver d'autres modalités de financement. Selon les enseignants de l'université, cette augmentation elle représente une rupture d'égalité dans l'accès à l'enseignement supérieur dans la France. Deuxième université qui continue la vague de désobéissance est l'université d'Aix-Marseille. Le conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille, qui compte actuellement 10 000 étudiants internationaux, deux fois plus que Clermont-Ferrand, vient de voter une motion montrant son opposition, rapporte la Marseillaise. Le conseil d'administration l'annonce. Si une augmentation de frais d'inscription entrait en vigueur à la rentrée prochaine, l'établissement utiliserait toutes les possibilités réglementaires qui lui seront offertes pour permettre aux étudiants internationaux extracommunautaires de bénéficier du régime tarifaire actuellement appliqué. Et dans les jours qui viennent, on verra bien si la désobéissance de la part des différentes universités va continuer.
Est-ce qu'on a des réactions ?
Moi, je suis assez fière des universités qui résistent malgré tout. Je suis juste un peu désolée que la mienne, Bordeaux, ne le fasse pas.
Mais voilà, on est toujours désolée quand c'est pas la nôtre. Genre, putain, quand même, on pourrait être mieux, mais non, personne ne se bouge.
Je trouve ça vraiment profondément injuste parce qu'on a quand même des jeunes de services européens, géorgiens et serbes, qui ont déjà plus de difficultés que les autres à pouvoir faire un service volontaire européen.
C'est quoi, c'est les visas où vous aviez vraiment galéré ou le,
ah oui,
le...
les visas, les titres, c'est ouais.
Voilà, donc du
résident.
C'est déjà une grosse galère, quoi, je pense.
C'est déjà une grosse galère quand tu veux venir en France, étudier en France, travailler en France sans faire partie de l'UE, si en plus on te rajoute des frais.
Si en plus il faut être riche, alors là, c'est bon, quoi.
Ouais, c'est hyper sélectif, du coup.
Et surtout, moi j'avais juste... Pardon, je tape le micro, super. J'avais une toute petite question. Quand t'as dit le passage des frais, c'est, je sais plus, 2000 quelque chose
Non,
euros.
Non, c'est 2770 au lieu de 100.
Mais c'est par an ou par, pour
par
les trois ans
par an. Mais c'est pour les 100.
Ah,
c'est
moi, je me suis dit, non, quand même, ça va être les trois. Oh là là.
Donc chaque année, quoi.
J'ai plus de mots là. Je ne vais pas auto-réagir. Victoire, tu veux réagir? Bof.
J'ai pas de mots.
T'as plus les mots là. Carla, Mariana. Non, vous connaissez pas trop la situation en France, mais bon. C'est. Ouais, je sais, moi non plus, j'ai pas trop les mots, je sais pas quoi dire en fait, je me dis, mais surtout que quand on nous dit que c'est la hausse des frais pour améliorer le traitement, quoi, le service, à quel moment en France, de toute façon, la qualité du service dans les universités ou dans les administrations en général peut être. Enfin, je veux dire, c'est pas notre marque de fabrique et je vois pas trop. Mais non, mais on en rigole, c'est vrai, mais en même temps, nous, voilà, c'est typique du pays, hein, on va pas non plus commencer.
On se souvient tous avec émotion de l'administration.
Mais voilà, de nos universités, on aime beaucoup. Bon, bref, voilà. C'était nos petites réactions un peu inutiles, mais sympa. Et du coup, Mariana va nous présenter la deuxième musique.
Oui. Maintenant, on va écouter un groupe musical slovaque qui s'appelle Horky je slyže et sa chanson 18 ou en français 18. C'est l'histoire d'une femme qui vient de fêter ses 18 ans et donc elle est devenue une adulte. Je voudrais dédier cette chanson à mon ami dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et même si tu n'as plus 18 ans, j'espère que tu sens comme ça. Donc voilà, keď už prajem ti všetko len to najlepšie k dnešným narodeninám, žijú za univerzé.
duši príjemný pocit, keď je človek plnoletý. S kľudom môžeš chlastať alkohol a fajčiť cigarety. Radšej zostaneme pri tej našej.
Donc la musique slovaque choisie par Mariana. Je vais pas essayer de prononcer le nom pour respecter les Slovaques qui peuvent peut-être nous écouter. Donc voilà, je ne voudrais pas risquer quelques périls. Enfin bon. Du coup, tout de suite, on va écouter Carla qui va nous présenter son coup de cœur de la semaine.
Bonjour à tous, je suis Carla de Portugal. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une de mes résolutions pour 2019. Vous voulez savoir laquelle? L'année dernière, j'ai pris pour la première fois des résolutions, une pour chaque mois. Je l'ai écrit pour garder en tête. Je voulais finir 2018 avec le sentiment d'avoir atteint mes objectifs. Je n'ai pas tenu toutes mes résolutions, mais assez pour être fière de moi. Cette année, je recommence. j'ai ajouté une résolution très importante pour moi. Ne plus acheter de vêtements pendant un an. Oui, vous avez écouté bien. L'idée m'est venue quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire en 2019. Vivre à l'étranger amène à vivre avec moins d'objets et de ramener ce qui tient dans ma valise. De plus, c'est une façon d'être écologique, car l'industrie textile est polluante. Je n'ai pas beaucoup de vêtements, mais j'ai assez pour une année. Pour ceux qui n'ont pas envie d'arrêter le shopping, il y a d'autres solutions. Acheter des vêtements d'occasion, par exemple. Une autre idée est d'acheter des produits locaux. Un peu plus cher, mais on connaît l'origine du produit. Et c'est bon pour l'économie locale. Acheter moins, mais de meilleure qualité, voilà un grand défi. Maintenant que j'ai fait cette promesse publiquement, je le dois faire. J'espère que cette chronique vous aura donné des idées. Bisous.
Est-ce que vous avez fait des résolutions autour de la table?
Moi, j'ai officiellement décidé qu'avec Vanna, notre amie grecque, que c'était qu'on était encore en 2018 et que mon début d'année ne se ferait qu'en 1er février. Ça, j'ai plus de temps pour mes résolutions. Et...
T'as plus de temps pour y réfléchir, c'est bien.
Ma seule résolution cette année, c'est ne pas prendre de résolution.
Nice, moi je prends jamais de résolution, oui également, mais de résolution, donc du coup ça marche plutôt bien.
Moi chaque année j'essaie plutôt de mettre des objectifs, un peu comme Carla, des goals plutôt que des résolutions, mais là, cette année j'avoue que j'étais un peu flemmard, donc on verra en février.
Donc en fait toi tu préfères réfléchir aux trucs à faire plutôt qu'aux trucs à ne pas faire, c'est ça? Parce que se faire des goals c'est ce qu'il faut faire dans l'année, alors que bon, la résolution de Carla c'est quand même plus une résolution où vraiment il ne faut pas acheter des vêtements... Et du coup, est-ce que, genre, jusque-là, t'as été une consommatrice raisonnée ou vraiment c'est un gros... je sens les yeux, genre... Is it like a big difference between... Did you used to be like a big shopper and now
shopping? To be honest, I think this will not be so difficult for me because okay. I never bought many, many clothes.
Okay. Du coup... Quick translation. Du coup, elle dit simplement que non, elle a jamais été une grosse consommatrice de vêtements, donc du coup, c'est pas dur du tout pour elle de d'arrêter d'acheter des vêtements. Victoire, à toi, l'agenda.
Merci Zoé. C'est moi.
Gros lancement là. On est vraiment sur un gros truc génial. Victoire, agenda, à toi.
Alors, ce mois-ci à l'Amemba, on va être très occupés, puisque ce 17 janvier, à l'Amemba, au 1 place Jean Jaurès, tout le monde est cordialement invité à 19h à redécouvrir la culture française, suivi autour d'un verre de vin, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement?
On l'espère, en tout cas.
Et les autres événements
animés par les services civils de la Maison de l'Europe. Le jeudi suivant, donc le 24 janvier, vous pourrez venir à la médiathèque La Source au Bousca à 18h30 pour vous exercer à l'anglais, à l'allemand, au portugais, à l'espagnol, au grec.
Accompagné de nos volontaires. Et il y a la soirée du mois. Est-ce que tu l'as noté?
Et pour finir le mois en beauté, nous avons la soirée du mois, la soirée finlandaise, animée par notre magnifique volontaire, service volontaire, hein, Petra.
Qui est ma collègue en plus, donc il faut que je lui fasse une petite dédicace. Voilà, Petra, on a fait ta pub, tu seras contente. Elle est hyper stressée pour sa soirée, donc voilà. Et du coup, Tessa, c'est à toi pour la minute de la fin.
Voilà, donc une petite minute pour vous remercier de nous avoir écoutés sur O2 Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Retrouvez-nous la semaine prochaine chez Jeunes Reporters Européens pour parler d'un sujet qui me tient parfaitement vraiment à cœur et qui n'est absolument pas drôle. C'est l'urbanisation et le genre, ou plutôt comment les villes sont faites par et pour les hommes, avec un H minuscule, on s'entend. Mais bon, d'ici là, on vous souhaite une très belle semaine et on vous fait des gros bisous.
Et je fais juste, encore une fois, un remerciement à Mariana, Carla, Hélène et Laura qui n'a pas parlé, mais pour avoir fait l'effort pour leur français. Et les deux Nico en régie, même si franchement aujourd'hui vous n'avez pas été très gentils. Mais ok, c'est pas grave, c'est bon.
Les jeunes reporters européens vous parlent. jeune reporter européenne vous parle.
Retrouvez Eau de Radio en ligne sur eauderadio.net. Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne.
Mancava il pavimento. L'impressione di scivolare su un piano inclinato, d'andare giù, d'essere sempre lì lì per affogare. E non hai niente.